Europa Voice numéro 92 déjà, et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
92, on avance, hein, on avance vers la centième. Et donc là, aujourd'hui, bien entendu, on va parler de l'Ukraine, on va essayer de faire un point sur ce qui se passe en Ukraine, d'élargir un petit peu le débat et de comprendre ce que cette guerre donc, entre la Russie et l'Ukraine aux portes de l'Union européenne, ce que ça veut dire justement pour l'Union européenne. Tout d'abord, je pense que c'était important qu'on fasse un rappel peut-être un point sur les grandes sanctions internationales qui vont à l'encontre de la Russie, justement à cause de leur action en Ukraine.
Oui, Christophe, effectivement, on a l'Union européenne qui a, j'allais dire, mis du temps à démarrer en termes de réaction et des sanctions, mais depuis quelques jours, on voit véritablement une avalanche de sanctions, et je reprendrai là les mots du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. C'est les mesures les plus dures, en fait, jamais prises par l'Union européenne. En deux mots, en fait, ce que prévoient ces sanctions, c'est surtout de limiter, mais drastiquement, comme jamais vu, hein, encore une fois, l'accès des autorités, banques et grandes entreprises russes au marché de capitaux européens. C'est en fait, l'argent, c'est le nerf de la guerre, toujours Christophe, mais c'est aussi le nerf de la capacité de nuisance que peut avoir l'Union européenne, justement par rapport aux Russes, avant même qu'il y ait une intervention militaire européenne. Alors, par rapport à ces grandes mesures, il faut aussi rappeler un événement historique qui est important, c'est que c'est pas non plus la première fois que l'Union européenne, Christophe, prend des mesures financières à l'encontre de la Russie, parce que rappelez-vous, quand il y avait eu l'annexion de la Crimée en 2004, les 27 de l'Union européenne avaient déjà en fait sanctionné plusieurs personnalités et entités russes. Donc c'est quelque chose, j'allais dire, qui est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est l'ampleur de ces sanctions. Dans ces sanctions, si on veut résumer ces sanctions économiques, financières, on peut d'abord parler de qui elles concernent. Alors, elles concernent évidemment les députés russes qui ont voté en faveur de la reconnaissance des territoires séparatistes. Donc ça, c'est évidemment très symbolique, mais en même temps, s'attaquer aux racines du mal d'une certaine façon, bah, c'est aussi un signal fort en termes de communication. Puis après, vous avez aussi des entités russes entières, des banques, par exemple, qui sont liées au pouvoir russe, à l'État russe, la Banque de développement, une grande entreprise. Vous avez aussi des personnes et des entités en dehors de ces députés russes qui ont porté atteinte à l'intégrité territoriale ukrainienne. Vous avez des commandants des forces russes, vous avez des personnes qualifiées, qu'on pourrait qualifier par membres importants de la propagande russe. Donc vous avez tout un tas d'entités, de personnes physiques et morales que vous ciblez par rapport à ces sanctions. Donc en plus de ces sanctions-là, vous avez aussi les pays indépendamment de l'Union européenne qui eux-mêmes sanctionnent la Russie. Par exemple, on a l'Allemagne qui a annoncé la suspension des autorisations du projet de gazoduc Nord Stream 2. On va peut-être en reparler, mais c'est un virement historique de la part de l'Allemagne. Par rapport à sa réelle politique par rapport à l'économie, c'est-à-dire qu'on avait toujours une Allemagne où en fait la réalité économique primait d'une certaine façon un petit peu sur les impératifs politiques. Donc on avait une relation qui était cordiale, ou en tout cas constructive, entre la Russie et l'Allemagne. Donc c'est un revirement par rapport à ça, mais c'est surtout un revirement parce que on sait que l'Allemagne étant un acteur qui est encore très dépendant du gaz, du charbon et beaucoup moins sur l'énergie nucléaire, on sait que ça va avoir aussi des conséquences pour l'Allemagne. Donc c'est une véritable prise de risque. Et après.
D'accord. Et d'ailleurs, l'Allemagne, on en reparle un petit peu plus tard dans cet épisode d'Europa Voice, parce que vous parlez d'un revirement total, hein, de l'Allemagne sur certaines pratiques également.
Oui, effectivement, ces sanctions, et ça c'est vrai pour l'Allemagne, mais c'est vrai pour toute l'Union européenne, Christophe, ces sanctions financières, économiques, elles représentent aussi, en termes là de construction politique, un véritable virage à 180 degrés pour l'Allemagne, évidemment, mais aussi pour toute l'Union européenne. Sans vouloir spoiler la fin du film, est-ce que les Russes ont accéléré, Christophe, ou pas, la construction d'une Europe politique? C'est véritablement, pour moi, la question. C'est est-ce que, malgré eux, là où on attend encore les Européens sur les questions de défense et de sécurité commune sur ce projet politique, alors qu'on a une Europe économique pour l'instant, est-ce que finalement, cette guerre provoquée par les Russes est-elle en train, à son insu, d'accélérer la construction d'une Europe politique. C'est pour moi tout le débat.
Ouais, et puis je rajouterais même dessus une Europe militaire, parce qu'on sait que les Anglais et les Britanniques étaient un frein à cette armée européenne, à cette défense européenne. L'Union européenne s'est, entre guillemets, libérée du fardeau britannique, en tout cas sur ce point de vue-là. Et aujourd'hui, les faits prouvent qu'il y aurait peut-être, il y aura sûrement besoin d'une armée européenne. Et ça, je pense que également, c'est quelque chose qui devra forcément changer dans les années à venir.
C'est surtout on le voit hein, même à l'échelle, je vais prendre des exemples peut-être même un peu anecdotiques, pas forcément de l'Union européenne, mais même de pays amis de l'Union européenne. La Finlande, qui est un pays ami de l'Union européenne, a aussi opéré un revirement par rapport au matériel qui va être de guerre, qui va être fourni à l'Ukraine. La Suisse aussi, non pas pays de l'Union européenne, mais partenaire économique d'une certaine façon, aussi a cassé sa position de neutralité. Et en plus de ça, vous avez raison, Christophe, l'Union européenne, alors là, c'est la question qu'on va pouvoir se poser dans les prochains numéros, mais c'est est-ce que cette Union européenne de la défense, et donc cette armée européenne, est-ce qu'elle va véritablement voir le jour? En fait, la question, c'est quel véhicule organisationnel, politique, entre l'Union européenne et l'OTAN, quel véhicule va véritablement être construit sur les bases de ce conflit provoqué par la Russie? Est-ce que ça va être une réaffirmation de l'OTAN à une époque où elle avait été pointée du doigt, notamment par le grand frère américain? Et là aussi, c'est un revirement historique, hein, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus, et ça n'a pas changé avec Biden, mais ne sont plus le gendarme du monde. Donc les États-Unis étant step down d'une certaine façon, est-ce que l'OTAN a encore véritablement un sens? Pourras-tu assurer ses missions de sécurité, de paix et d'armée? Ou est-ce que maintenant, il ne reste plus qu'un acteur cohérent qui est l'Union européenne? Donc c'est véritablement, pour moi, le point central. Et les sanctions ne font, si vous voulez, ne sont qu'un canal pour accompagner cette construction politique à venir.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est le timing de cette guerre. Il y a cette guerre aux portes de l'Europe et ça remet en question énormément de choses au niveau européen. Ça remet aussi pas mal de débats au niveau national, français, on va dire ça. Surtout avec cette élection présidentielle qui arrive et les candidats, pas candidats, qui ont tous plus ou moins pris position, tous presque sauf un, j'allais dire.
Oui, on a effectivement des. Alors, on a deux éléments, je pense, Christophe. On a un président pas encore candidat, Emmanuel Macron, qui lui a endossé véritablement ses habits de chef des armées et est en train vraiment d'être aux premières loges de la diplomatie, des tractations avec Zelensky et Poutine. Donc, Emmanuel Macron, lui, clairement. Et encore une fois, qui n'est pas candidat à ce moment-là à sa propre succession, il a expliqué que la France, à l'instar de tous les autres pays européens, devra prendre sa part sur plein d'aspects, notamment sur celui de l'accueil des réfugiés et l'assistance portée à la population ukrainienne. Là aussi, Christophe, c'est intéressant parce que, au-delà de cet aspect déclaratif par rapport aux réfugiés ukrainiens, ça met le doigt encore sur un autre domaine où, pour l'instant, on n'a pas de cohérence en Europe, qui est celui des migrations, des frontières. On l'avait vu et revu hein, quand on avait parlé de Lampedusa, quand on parlait de ces migrants. On a toujours ce même problème, c'est-à-dire que les migrants arrivent aux portes de l'Italie pour Lampedusa, et puis après, on n'a pas de cohérence, on n'a pas de projet politique commun pour accueillir ces migrants, pour, d'une certaine façon, ce que l'Europe travaille comme un homme. Et donc, en plus de cette question de l'Europe de la défense, de l'armée, on a aussi cette question qui va se poser avec ces réfugiés ukrainiens. Et on le voit hein, d'ailleurs, l'Europe qu'on pourrait qualifier d'occidentale est vraiment amenée à se prononcer à l'heure où des pays comme la Pologne, la Moldavie, d'autres pays d'Europe de l'Est ouvrent leurs frontières, la Géorgie ouvre leurs frontières aux réfugiés ukrainiens. Donc on a Emmanuel Macron qui a endossé ce rôle-là par rapport à la question des réfugiés, et puis on a en vrai, comme vous l'avez dit, hein, tous sauf un, c'est-à-dire Éric Zemmour qui lui, pour l'instant, est le seul à ne pas vouloir accueillir des réfugiés ukrainiens. Là, je le cite, hein, au risque de déstabiliser la France qui est déjà submergée, je dis bien submergée par l'immigration. Et donc, il préfère que ces réfugiés soient, et encore une fois, je le cite, hein, en Pologne, pays qu'il faut aider à faire face. Et donc, c'est intéressant aussi parce que on le voit, hein, sur cette question-là, Emmanuel Macron a tout de même réussi aussi son pari de, d'avoir la classe politique, moins un, alignée derrière lui sur les questions d'aide à l'Ukraine par rapport aux réfugiés. Sur la question de l'armée, des soldats français, il y a un panorama politique qui est un peu plus différent, mais en tout cas, sur la question des réfugiés, Emmanuel Macron a réussi à faire plus ou moins l'unanimité.
Oui, tout à fait. Alors, si, pour conclure sur ce point, si on regarde d'un côté extra-européen, la Russie, le pays qui donc a attaqué l'Ukraine, la Russie, les sanctions, ça veut dire quoi pour la Russie? On sait que la rouble, donc la monnaie russe, a été complètement dévalorisée ou dévaluée par rapport à, ou en tout cas a décroché par rapport aux monnaies importantes, au dollar, mais principalement par rapport au yuan. Et ça, ça reste quand même presque primordial que les Russes restent accrochés au yuan, parce que c'est un peu la seule économie qui peut essayer de les sortir de l'eau, en tout cas, encore une fois, entre guillemets, économiquement.
Oui, c'est effectivement, c'est un point qui est important, et c'est aussi, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie dessus, Christophe, en tant que journaliste, analyste, parce que ça peut être un peu compliqué de prime abord, mais le fait, par exemple, qu'on a aussi les banques russes qui sont exclues du système bancaire SWIFT, le fait qu'en fait qu'il puisse plus y avoir ces échanges entre les entités russes et les entités européennes, c'est-à-dire qu'en fait l'argent ne peut plus circuler, fait, comme vous l'avez dit, que il y a une forte désindexation de la rouble qui s'effondre, et donc ça va créer, alors c'est pour contrer l'inflation, mais ça va surtout créer, ça va avoir des effets de long terme, si vous voulez, et ça veut dire que en fait et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ces sanctions économiques là, elles ne vont pas s'arrêter le jour où il va y avoir un accord de cessez-le-feu ou de paix qui va être trouvé. Elles vont avoir des conséquences de long terme sur l'économie russe, sur son assèchement, sur sa capacité aussi à exporter, à importer, et donc sur sa capacité aussi à être une monnaie. En fait, si vous voulez, en deux mots, la monnaie russe, le rouble, ne va plus valoir grand-chose, en tout cas va être fortement dévalorisé, et donc c'est un véritable frein au développement, mais encore une fois, pour les mois et les années à venir, de l'économie russe, avec tout ce que ça implique en termes d'inflation, de pauvreté, de pouvoir d'achat pour les Russes, de capacité d'emprunt aussi par rapport aux banques centrales, c'est aussi un autre élément, c'est-à-dire que l'accès aux banques centrales est aussi restreint, donc effectivement c'est des conséquences économiques de long terme, et qui vont avoir des conséquences. Si je prends juste l'exemple des exportations, vos exportations sont limitées, vous allez avoir des fournisseurs, des partenaires qui vont se diriger vers d'autres marchés. Et donc, c'est des choses que vous n'allez pas réussir à remettre dans le bon sens, parce que vous allez avoir un système économique d'échange qui va se créer complètement en dehors de vous-même. Donc, vous voyez, même le jour où la monnaie va retrouver de la valeur, ou va de nouveau être réintégrée dans le système d'échanges mondiaux, vous allez être en dehors de ce marché-là, et ça va être très très difficile pour vous de reconquérir ces parts de marché et de nouveau vous remettre dans le circuit économique interdépendant mondial.
Ouais, absolument. Et puis, on n'a pas parlé de l'énergie. Ça fera sûrement le débat d'un prochain Europa Voice, parce qu'il y a toute la question de l'énergie aussi, puisque l'Europe est un énorme consommateur de gaz russe, notamment. Alors, on va tourner la page de l'Ukraine, parce qu'il y a aussi d'autres informations. On en a un petit peu touché quelques mots il y a quelques instants. L'Allemagne a pris un virage, vous le disiez hors micro, hein, pas à 360 degrés, mais à 180 degrés. Donc, un vrai virage à 180 degrés. Ça veut dire beaucoup, parce qu'il y a énormément à lire dans ce mouvement par l'Allemagne.
Oui, Christophe, alors, encore une fois, le virage à 180 degrés de l'Allemagne, ce n'est pas une initiative qui est isolée. Hein, c'est-à-dire que ce que fait l'Allemagne, en fait, s'inscrit dans le projet politique, encore une fois, moi j'insiste sur ce point-là, qui est en train de construire l'Union européenne. Mais là où ce qui se passe en Allemagne est historique, c'est qu'en fait, rappelez-vous, hein, après les secondes guerre mondiale, et après avoir désarmé l'Allemagne, il y avait une tradition, ou en tout cas les Allemands ne fournissaient plus d'armes, l'Allemagne, l'armée allemande était démobilisée, voilà, c'était une espèce de statu quo, d'abord j'allais dire justifié par les deux guerres mondiales, mais aussi après symbolique. Et puis là, d'une certaine façon, de manière un peu surprenante, mais encore une fois cohérente avec le projet politique global, on assiste à une révolution opérée par le nouveau chancelier Olaf Scholz sur la politique de défense, pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport à la hausse des dépenses militaires, c'est-à-dire que en plus d'une Europe, une enveloppe pardon, immédiate de 100 milliards d'euros, le chancelier a déclaré que d'année en année, cette enveloppe serait augmentée afin d'atteindre plus de 2% du produit intérieur brut. Alors, c'est historique pour la simple et bonne raison qu'on a pour l'OTAN un objectif qui est fixé à 2%. Donc, c'est-à-dire que l'Allemagne, d'elle-même, va volontairement aller au-delà de ce chiffre et de ce ratio de 2% pour contribuer à l'effort du budget de la défense. Et puis, le deuxième point, Christophe, qui pour moi est j'allais dire encore plus une révolution, c'est les termes utilisés par à Scholz qui a qualifié de priorité absolue la construction d'une prochaine génération d'avions, de chars, de combat avec les partenaires européens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que clairement, le chancelier a en tête cette Europe de la défense dont on ne fait que parler. Et vous voyez, pour moi, c'est...
Mais ça, je suis désolé d'interrompre, c'est rassurant, parce que c'était une des questions, encore une fois, qui était en suspens de l'après-Brexit, comment l'Europe va prendre ce virage. On était tellement, tellement habitués à avoir Angela Merkel, qui était donc à la tête de l'Allemagne, mais là, du coup, c'est rassurant, parce qu'on se dit, l'Allemagne est sur la même longueur d'onde que son grand frère, sa grande sœur, la France. Et c'est quand même, qu'on se voile pas la face, ce sont les deux pays qui vont emmener, qui vont driver les discussions pour avoir une défense européenne.
Eh ben ça, c'est très juste, Christophe, parce que de facto, dans ce qu'on peut observer, ce qui se passe, c'est que les deux plus grandes initiatives, en tout cas les deux initiatives les plus populaires, mais ce n'est pas le bon mot, mais les deux initiatives qui font vraiment parler d'elles, c'est à la fois, encore une fois, la proactivité d'Emmanuel Macron sur le plan diplomatique, alors qui est aussi expliqué parce que, encore une fois, la France, c'était l'objet d'un précédent numéro d'Europa Voice, la France assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Donc c'est pas étonnant qu'Emmanuel Macron soit si proactif sur le d'un point de vue diplomatique, politique, mais l'autre pied sur lequel l'Europe est en train de danser, si je peux m'exprimer ainsi, c'est effectivement ce discours de Olaf Scholz. Donc oui, effectivement, le couple franco-allemand est encore une fois moteur dans la réaction européenne ou dans la construction d'une réponse politique européenne. Et puis sur votre point par rapport à Angela Merkel, c'est vrai, on redoutait, enfin en tout cas on était dans l'expectative de savoir ce qu'allait devenir la politique européenne du point de vue allemand et la politique allemande par rapport à l'Union européenne. Ce qui est rassurant, bah, c'est déjà qu'on a un nouveau chancelier qui est écouté, hein, comme Angela Merkel pouvait être écoutée. Donc ça veut dire qu'on arrive à avoir une nouvelle voix, et ce n'est pas forcément évident, après des années de chancellerie. Et puis, ce qui est peut-être encore plus rassurant, c'est qu'on voit que... il y a une sorte aussi d'unité du côté allemand, c'est-à-dire que Scholz est capable aussi d'amener à lui des membres de la CDU, parce que Scholz lui fait partie du SPD, mais il y a aussi le chef de file de la CDU qui a salué son discours, qui l'a fait applaudir, en gros qui a donné un satisfecit au projet politique de défense du chancelier allemand. Donc ça, c'est aussi rassurant. C'est-à-dire que on n'est pas dans quelque chose qui est bloqué ou bloquant parce qu'on a une opposition interne qui va à l'encontre de ça. Mais encore une fois, la vraie révolution, c'est dans cette armée allemande, enfin dans cette idée d'avoir de nouveau sur le territoire allemand et fourni par les Allemands une capacité d'intervention militaire. Et puis, autre point, hein, Christophe, hein, qui n'est pas anecdotique, hein, c'est la suspension du gazoduc, comme on a parlé il y a quelques instants, Nord Stream 2, parce que, encore une fois, il y avait ce principe de réelle politique économique, et notamment vis-à-vis des pays de l'Est, et ça, c'est une longue tradition, c'était déjà sous Willy Brandt dans les années 70, où il fallait avoir une espèce de rapport de force cohérent, en tout cas une réelle politique avec le partenaire russe. Et bien, le fait de suspendre ce contrat montre bien que là... on va au-delà des intérêts purement économiques de l'Allemagne, d'avoir ces bons rapports avec la Russie, mais qu'il y a des intérêts supérieurs de défense d'une certaine idée de l'Europe qui prime sur ces rapports de réelle politique économique avec le voisin russe.
Oui, tout à fait. En tout cas, merci Nathanaël, parce que le but de cet Europa Voice, cet épisode, c'était vraiment d'essayer d'éclaircir le débat au-delà, et ce qui est déjà atroce, la guerre, mais au-delà de la guerre, en fait, de comprendre l'impact au-delà des combats et des enjeux qui sont là pour l'Union européenne et cette guerre qui est vraiment aux frontières de l'Union européenne. Merci Nathanaël.
Merci beaucoup Christophe.